Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas roter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, c'est l'émission du 7 mars, émission Cinérama, émission hebdomadaire de cinéma sur Divergence FM. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, un sommaire un peu comme d'habitude, avec des films qui sortent aujourd'hui sur vos écrans et puis des films qui sont déjà sortis. Alors on développe ce petit sommaire avec toi Marine tout d'abord.
Alors moi je vais vous parler de Albert Nobbs avec Glenn Close, ce qui donnera lieu à un blind test sur le travestissement au cinéma.
Voilà, vous pourrez jouer avec nous chers auditeurs, sans rien gagner.
Oui et non, mais parce que sinon de toute façon c'est pas drôle, c'est juste pour la gloire. Et je vous parlerai également du film de Angelina Jolie, Au pays du sang et du miel.
Et puis toi Manu, alors on t'a connu, hein, tu es fraîchement arrivé dans l'équipe quand même de Cinérama, on t'a connu en tant que meneur de l'absurde séance qui se déroule à l'Utopia, et aujourd'hui eh bien, tu reviens presque dans ce rôle hein, pour présenter l'absurde séance de demain.
Donc oui, je présente donc Booba Hotep de Don Coscarelli qui passe demain donc à 20h30 au cinéma Utopia.
Voilà, voilà. Projection de film avec,
des surprises. De nouveau des surprises.
Voilà. Donc ça, ce sera à peu près en milieu d'émission. On écoutera aussi une interview de Tony Gatliff qui était présent la semaine dernière au cinéma Diagonal. Tony Gatliff qui sort aujourd'hui Indignados. Un film dont il est très fier, mais que bah, nous, on en est un peu moins.
Un peu moins.
Voilà, c'est sûr. Mais on l'écoutera quand même eh bien, en parler. Et puis, je ferai une chronique aussi sur John Carter d'Andrew Stanton, qui sort aujourd'hui. Il y avait une avant-première hier au Gaumont Multiplex. Mais on commence tout de suite avec le film Le Territoire des Loups.
Cinérama, Cinérama sur Divergence FM.
Qu'est-ce que c'est ?
Vite ! Vite ! Vers les arbres !
Putain
de merde ! Vite ! Vite !
Ils arrivent sur nous ! Courez ! Courez !
Attendez ! Attendez ! Ne vous retournez pas ! Courez !
Alors on aura beau vous dire hein, que les loups ne s'attaquent pas à l'homme, qu'ils le reniflent à des kilomètres et qu'ils s'en méfient, voilà qu'Hollywood continue à prendre la fable du petit chaperon rouge au pied de la lettre. Ce que l'on entend ici, ce sont des hommes traqués par une meute de loups dans un décor des plus sauvages en Colombie-Britannique, au Canada. De la neige, quelques arbres, de grandes plaines, quelques arbres, de la neige et du blizzard quand on n'a pas de chance. C'est le décor du film Le Territoire des Loups, donc nouvel opus de Joe Carnahan à qui l'on doit l'agence touristique, mais aussi le remarqué Mise à Prix. Alors si l'essentiel du film se passe dans l'hiver canadien, il commence en Alaska où John Otway travaille pour un groupe pétrolier. Son job, protéger les travailleurs contre l'assaut de bêtes sauvages, alors des loups, mais aussi pourquoi pas des ours, des travailleurs qui quittent la misère rencontrée dans les autres États des USA. Tandis que les autres hommes s'abîment dans l'alcool et les bastons, lui prend un autre chemin. C'est plutôt un type mélancolique à qui on a affaire. On comprend assez vite qu'il veut en finir avec la vie, que son existence, avant de se retrouver par grand froid, n'a pas été un long fleuve tranquille. Alors les images d'une femme, une voix off qui est la sienne, tentent de nous donner des indices par bribes. Que s'est-il passé ? On le devinera au fil du récit. Alors avant d'être interdit. Au moins de 12 ans, le film est rigoureusement interdit à ceux qui se coltinent une phobie des avions. Car si nos hommes doivent se protéger des loups, c'est qu'ils subissent un crash comme on en voit rarement au cinéma. Une vraie séquence qui mêle suspense latent et surprise avec son omniprésent, montage d'images de l'accident en train de se produire, semi-sommeil, perte de conscience, réveil halluciné. Tout y passe, entre réalisme et onirisme, en ce qui concerne notre John Otway, interprété par Liam Neeson, qui a définitivement quitté le monde de Tatooine et des Jedi pour le Grand Nord.
Il n'est pas une seconde où je ne pense à toi d'une manière ou d'une autre. Je veux voir ton visage, sentir tes mains dans les miennes.
L'avion à terre au milieu de nulle part, alors on pourrait penser à un nouveau film du genre Les Survivants du vol 917, Manu, qui n'existe pas mais que t'aurais bien aimé, hein, avec des délires anthropophagiques, pourquoi pas, non? Mais nous ne sommes pas dans une série B. Le froid, la neige, le feu, les cadavres et les survivants, voilà le menu. Les pires phobiques du transport aérien donc penseront qu'il n'est pas vraisemblable de survivre à pareil crash, mais pourtant l'étude d'un certain nombre d'accidents d'avion permet de construire un scénario à peu près réaliste. On est même libre de décider qu'une majorité survivra. Mais ça ne nous donne pas la même histoire. Donc les scénaristes qui s'appuient sur une nouvelle ont donc décidé qu'ils seront peu, mais qu'au moins on prendra le temps de les voir, de comprendre au fil du récit ce qu'ils ont quitté pour une vie de travailleur en Alaska. On aura le temps aussi, et c'est un minima, quand on place des hommes au milieu de nulle part, et que ça n'est pas Koh-Lanta, de se demander comment ces hommes vont réagir à l'événement et comment va s'organiser la survie. Qui va décider? Aura-t-on affaire à la lutte du plus fort contre la plus forte tête? Est-ce qu'on va laisser le pouvoir à celui qui prend les initiatives? Mais la lutte du pouvoir n'est rien. Comparée aux dangers qui guettent ces survivants, des loups d'un grand gabarit ont décidé de mener la vie dure à ce petit groupe. À force de les tuer, John Otway a appris à les connaître. Ce qu'il dit sur leur férocité largement prouvé par les images, ce qu'il raconte sur leurs habitudes, va contraindre le groupe à suivre ses intuitions. Pendant tout le reste du film, c'est à une traque à laquelle on assiste, mais où les loups ne seront pas les seuls à être une menace. Le réalisateur Joey Carnahan parvient à insuffler à son récit une cruelle vraisemblance, si on met de côté que les loups ne sont pas des tueurs d'hommes, évidemment. Dans le territoire des loups se lient plusieurs figures hautement anxiogènes. Il y a cette nature, le froid, la neige, il y a ces bêtes qui sont très bien réussies, un peu grosses sûrement, mais quitte à mentir sur leur comportement, autant y aller à fond. Et puis il y a ces hommes qui se racontent un peu, qui luttent pour leur survie, qui peu à peu se choisissent partenaires, confidents, compagnons de galère. Ça n'est pas un film sur la solidarité, sûrement pas. Dans les territoires des loups, dont le titre original est The Grey, le gris, on perçoit une sourde mélancolie, la fragilité de la vie. Alors vous me direz, pas besoin de loups pour s'en convaincre, mais les loups sont des personnages quasi secondaires, quoique bien utiles à l'attention, ce sont des révélateurs pour notre personnage principal. Le territoire des loups réussit son pari et nous tient en éveil avec les ingrédients de la surprise et du suspense et avec une belle esthétique, tournée dans des conditions réelles et forcément épouvantables. Ce qui est rendu sur écran est convaincant et les loups qui sont un mélange de marionnettes articulées et d'animaux réels contribuent par leur réussite à nous laisser guider dans ce territoire hostile. Le territoire des loups est sorti la semaine dernière, il est encore projeté au Gaumont, Comédie et Multiplex, au Cinéma Royal, au CGR, et puis aussi du côté de Lunel, à l'Athénée.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Et on passe donc à Albert Nobbs de Rodrigo Garcia. Albert Nobbs est un majordome respecté pour le travail qu'il effectue depuis 30 ans dans un hôtel de Dublin. Albert Nobbs économise chaque jour la moindre pièce afin de s'acheter un commerce de tabac. Albert Nobbs sait que la crise qui frappe l'Irlande en cette fin de 19e siècle n'épargne personne, et il s'accroche à son travail et à son rêve tout en espérant bien épouser l'une des jeunes servantes de la maison. Seul problème, Albert Nobbs est une femme.
Albert, Monsieur Hubert Page, qui travaille le matin, nous demande si on pourrait l'héberger. Je lui ai dit que vous alliez le dépanner.
Que j'allais le dépanner, moi?
Oui, vous, Monsieur Nobbs.
Mais quel vieux mangard. Vous êtes une femme.
Vous comptez donc vous marier, n'est-ce pas, Nobbs?
Ouais. Je t'ai demandé de se promener avec lui. Elle est bonne, celle-là. Il est malin, l'animal.
Voudriez-vous entrer? De quelle façon y êtes-vous arrivé?
Pardon?
À vous marier. Un jeu d'enfant. Et vous pourriez en faire autant.
Après avoir interprété le rôle de Albert Nobbs au théâtre il y a 20 ans, Glenn Close a souhaité l'adapter en faisant appel au réalisateur Rodrigo Garcia. On retrouve par ailleurs cette essence théâtrale dans les monologues du personnage principal, difficilement crédible, c'est vrai, sur un écran de cinéma, mais qui permettent une introspection facilitée. Alors, on sent bien que Glenn Close joue ici le rôle de sa vie, mais bien que très appliqué à rendre son personnage convaincant, et malgré un maquillage récompensé aux Oscars, on n'y croit que moyennement. Rodrigo Garcia, quant à lui, semblait tout désigné pour réaliser, puisque l'ensemble de sa filmographie est axé autour de la thématique de la femme, mais il est d'habitude un réalisateur de l'anecdote, que ce soit dans Ce que je sais d'elle d'un simple regard, une comédie dramatique à sketch, Nine Lives, un enchaînement de 9 plans séquences, ou encore son récent Mother and Child, un film autour de 3 destinées. Livrer ici un film de 2 heures qui ne se penche que sur un seul personnage paraît donc dépasser ses capacités. Résultat, le film prend un peu la poussière, et le manque de rythme achève une réalisation trop contemplative. Le point intéressant est que le film nous montre aussi une certaine idée de la crise, version 19e siècle, lorsque perdre son pouvoir d'achat signifiait mourir dans la rue et non pas faire ses courses à Lidl, dans un monde qui devient finalement progressiste par défaut, puisque les femmes doivent s'extraire de leur carcan social, travailler et même se marier entre elles, non pas par souci d'égalité, mais tout simplement pour survivre. Albert Nobbs demeure un film intéressant, bien qu'imparfait. On regrette que la question du transgenre soit plus un prétexte narratif qu'une question psychanalytique à creuser. L'homosexualité féminine y est abordée de façon délicate, pas du tout frontale, sans contourner pour autant le sujet, mais il est juste un peu dommage que le film explique sans arrêt le besoin de travestissement par un traumatisme causé par les hommes. Donc le film n'est pas débordant d'énergie, il relève quand même bien le défi de la reconstitution historique. Et surtout, il réussit à dégager une réelle émotion, bien qu'il soit en apparence un petit peu austère et que pendant 2 heures, ça s'étire un peu en longueur. Mmh. Voilà. Donc si ça vous tente, c'est toujours au Diago.
Et ça nous donne l'occasion donc de jouer à un blind test.
Mais oui, un spécial travestissement. Alors d'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose en préparant ce blind test. Je ne sais pas si vous l'avez aussi remarqué. Mais au cinéma, quand les hommes se travestissent en femmes, c'est toujours matière à comédie.
C'est vrai.
En revanche, quand c'est une femme qui se travestit en homme, ça donne toujours lieu à des histoires absolument dramatiques.
C'est vrai, c'est le cas dans le dernier Sherlock Holmes, notamment. Effectivement, il se travestit en femme et c'est une des scènes les plus hilarantes.
Oui. Voilà, et là, Albert Nobbs, qui est une tragédie au dernier degré. Allez, on commence tout de suite, premier extrait.
C'est de l'exploitation, c'est pas juste.
La ferme.
Ouais, t'aurais mieux fait de te taire.
Est-ce une mutinerie ou une rébellion, Moussaillon? Y a-t-il des dissensions dans les rangs? On continue les travaux manuels et on oublie les cartables?
Non, on obéit.
À vos cahiers, le monde appartient à ceux qui apprennent leur géo. Allons-y, fuyez devant moi. Gauche, droite, en avant, petit soldat. Vitaminez-moi ces cervelles. Faites-moi gonfler ces boîtes crâniennes.
Papa me manque.
Moi aussi.
Papa, encore plus.
Papa est là, mes chéris. Enfin, si on peut dire.
Ah, Bruno avait trouvé avant même d'entendre la voix de Robin Williams. Oui, notre... c'était Madame Doubtfire.
Notre technicien.
L'épée. L'épée à terre dans son pré. C'était un signe.
Non, c'était une épée dans un pré.
Non, non, c'était un signe.
Non, c'était une épée dans un pré.
Toute cela ne serait jamais arrivée là. Jamais. Toute cela ne serait pas arrivée là, ça n'arrive pas toute seule une épée.
Très juste. Tout événement a un nombre infini de causes, alors pourquoi en retenir une plutôt qu'une autre? Il peut y avoir une quantité de façons pour une épée d'arriver dans un pré. Et pourtant, parmi un nombre infini de possibilités, tu as choisi de retenir celle-là.
«
Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir.
Vincent, tu
Jeanne, me souviens, tu Jeanne d'Arc, oui.
Oui, le plus célèbre travestissement de l'histoire, quand même.
Je pensais pas que c'était aussi drôle.
En fait, c'est la scène juste avant qu'elle se fasse brûler, donc c'est assez moyennement drôle.
C'est une parodie, en fait.
C'est quand elle est face à Dustin Hoffman en prêtre, une espèce d'apparition comme ça, fantomatique, qui la met face à ses hallucinations, on ne sait pas trop.
Ah oui, quand on a que le son, c'est drôle, hein, quand même.
Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que les peines pour les tourments. T'emmènerai en voyage dans les plus beaux pays du monde. Je ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde, où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses.
N'ayez pas peur, vous êtes toujours sur Divergence, mais j'ai un peu laissé durer le plaisir parce que c'était vraiment trop bon.
Ah,
Bruno a trouvé, oui, c'était bien sûr Chouchou. C'est la célèbre scène où Alain Chabat rentre dans le cabaret transformiste et que Gad Elmaleh, qui est maquillé de toute beauté, chante du Diantel.
Mais je n'ai toujours pas vu Manu.
Non, j'ai pas vu. Mais non.
De quoi tu veux parler, Abraham?
Moi, il y a quand même un truc que j'ai du mal à décoder. Une fois, tu es venu pisser avec moi. Excuse mon langage, maman, mais t'as secoué ta bite.
Ouais, toutes ces conneries que tu dois payer une pension pour un gosse t'as pas le droit de voir.
T'as pas arrêté de nous vendre des salades depuis que t'es arrivée.
Non.
C'est... Ouais, je vois que t'as tronche de petite tapette recto-verso. Et en définitive, mon vieux, quand on y réfléchit, t'es qu'un sale petit menteur, pas vrai?
Non.
Et tu sais ce qu'on fait aux menteurs?
Non, écoutez...
Bon, là, c'est un petit peu moins drôle. Personne n'a trouvé?
Non.
Oh bah. Ah, Bruno vient de me dire dans l'oreillette qu'il avait trouvé ses Boys Don't Cry. Mais,
oh là, ouais,
mais quel score, Bruno. C'est incroyable. Oui, un film de Kimberly Pierce, de, il me semble, 2001, qui a révélé Hilary Swank, qui était d'ailleurs extrêmement crédible dans ce rôle. En tout cas, en garçon, elle était vraiment méconnaissable.
Oui, coupé court. Je me souviens, j'ai pas vu le film. Hein. Je me souviens.
Elle a un visage très masculin et on y voit que du feu.
Très bon film, d'ailleurs.
Oui, excellent.
On m'appelle Agrado, parce que toute ma vie, ma seule préoccupation aura été de rendre la vie agréable à mes semblables. Je suis pas seulement agréable, je suis 1000% authentique. Voyez comme c'est beau, du sur-mesure. Tout le corps que humain. Ajustage des yeux, 80 000. Le nez, 200. Jeté par la fenêtre parce que 2 ans après, on m'a tordu dans l'autre sens dans une baston. Ça me donne de la personnalité, mais si j'avais su, j'y aurais jamais touché. Continuons. Nichon 2, parce qu'un seul, c'est monstrueux. 70 la pièce, mais il y a longtemps que je les ai amortis. Silicone dans...
Où ça?
Lèvres, front, pommettes, hanches et le cul. Le litre coûte dans les 100 000, à vous de faire le compte parce que moi, je l'ai perdu. L'image des mandibules, 75 000. Épilation définitive au laser, parce que n'oublions pas que la femme descend du singe au moins autant que l'homme. 60 000 par séance, ça dépend de la barbe qu'on a. La norme, c'est de 2 à 4 séances. Bon, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ça coûte la peau des fesses d'être authentique, mesdames. Alors être radine, ça sert à rien. Pour être totalement authentique, faut être conforme à l'image qu'on a rêvée de soi-même.
Très étrange, hein, cet accent du sud avec un petit accent espagnol.
Oui, quoique le doublage n'était pas trop mauvais d'ailleurs sur ce film, j'ai pu remarquer ça. D'ailleurs, Manu, tu as trouvé? Il s'agissait de...
Tout sur ma mère, donc.
Oui, de Almodovar. Alors bon, après, j'avais que l'embarras du choix, puisque tous ces films, finalement, traitent du travestissement ou carrément du changement de sexe, c'est selon...
Il y avait Talon Aiguille, notamment.
Oui, ou même le dernier, La Pielle Cabito, qui parle aussi, finalement, de travestissement poussé. Au dernier degré. Et puis, on va finir avec, je pense, le meilleur dialogue de tous les temps.
Asgood, je serai franche avec vous, nous ne pouvons pas nous marier du tout.
Pourquoi ?
Eh bien, pour commencer, je ne suis pas une vraie blonde.
Pas d'importance.
Je fume comme un sapeur.
Ça m'est égal.
Mon passé n'est pas beau, je vis depuis 3 ans au moins avec un joueur de saxophone.
Je vous pardonne.
Hélas, je ne peux pas avoir d'enfant.
Nous en adopterons.
Vous ne comprenez pas Asgood.
Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait.
Voilà, la meilleure réplique du cinéma, je pense. Manu, tu l'avais trouvé.
Certains l'aiment chaud.
Oui, bien sûr, de Billy Wilder. Et ça, c'était la réplique finale. Voilà.
Eh bien, merci Marine pour ce blind test. J'espère que vous avez pu jouer avec nous, chers auditeurs. C'est Cinérama, et avant de retrouver Tony Gatliff et John Carter, c'est l'absurde séance.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Amateurs donc d'Elvis et de films déjantés, donc venez nombreux jeudi 8 mars à 20h30 pour assister à la quatrième absurde séance
au cinéma Utopia.
Après une absence d'un mois et demi, donc avec le film de Don Coscarelli, Booba Hotep.
Les créateurs de Fantasme et Army of Darkness. Vous raconte une authentique légende américaine. J'étais le king, le roi du rock'n'roll. Comment ai-je pu devenir ce vieux type reclus dans cette maison de repos ?
Vous étiez un imitateur d'Elvis, mais vous vous êtes cassé la hanche sur scène. C'était en 78.
C'est de là qu'ils ont extrait un bout de mon cerveau. J'ai un sac de sable dans la tête.
Jack, Kennedy était plutôt blanc.
Ils ont teint mon corps en noir. La chose qui hante la maison de repos est une espèce de suceur d'âme originaire d'Égypte.
Une sorte de Booba Hotep.
Une momie qui sort la nuit de sa cachette et aspire notre âme quand on dort.
Le mystère d'une antique malédiction. Elle continuera à se nourrir sans problème. Tant qu'elle ne sera pas détruite. Et un héros du rock'n'roll... qui n'est jamais mort.
Ok, mec, on y va.
Bruce Campbell. Ossie Davis. Booba Hotep.
Ne m'oblige pas à te sortir le grand jeu.
Autant tout suspense, Elvis is not dead. C'est du moins le point de départ délirant de Booba Hotep. Elvis aurait pris donc la place d'un de ses nombreux imitateurs, Sebastian Hall, et finirait ses jours dans un hospice plutôt glauque au fin fond du Texas. Pléonasme, direz-vous. On s'amuse rarement dans une maison de retraite. La vie léthargique du pauvre chanteur culte va être bousculée par l'arrivée d'une présence menaçante, une momie qui a besoin de se régénérer. Pourquoi cette momie décide-t-elle d'aspirer des âmes de pensionnaires aussi décrépits ? Parce que c'est plus facile, c'est l'explication à un moment donné dans le film. Même s'il y a moins de vitalité chez un grabataire que dans l'œil d'un caniche. Pour couronner le tout, le scénariste, peut-être sous l'emprise de quelques substances illicites, a imaginé une association délirante. Elvis va s'acoquiner pour combattre la force maléfique avec un noir qui jure être le président Kennedy. Séquence cocasse où le vieux Black demande à Elvis s'il n'a rien à voir dans la tentative de son assassinat et qu'il ne jure ne pas connaître Lee Oswald et Jack Ruby.
C'est de l'Égyptien ?
Des hiéroglyphes. Tu es loin d'être aussi stupide qu'on le raconte.
T'es gentil.
En fait, je les ai découverts hier, tout à fait par hasard. Et j'étais venu ici pour poser une pêche parce qu'il y a des micros dans mes WC. Et j'ai tout recopié. Et je me suis mis au travail. J'ai pris mes bouquins et j'ai fait une traduction de ce truc. Regarde là, la première ligne, celle-là. Elle veut dire, en gros, Pharaon, suce des couilles d'âne. Et celle d'en bas... Cléopâtre est une grosse cochonne.
C'est une blague.
Non, j'ai essayé d'être aussi fidèle que possible à l'original.
Bon, vous voyez un peu la teneur des dialogues. Oui. Donc la réussite de Booba Hotep ne tient pas vraiment dans les qualités de mise en scène. Cette comédie horrifique adopte un rythme assez mou, en fait, qui tranche un peu avec les productions actuelles du même genre. Don Coscarelli épouse volontairement la vie de ces pauvres petits vieux coincés dans cette maison de retraite. Il tire parti de la lenteur du récit, en osmose avec le sujet traité. Dedans, Elvis n'est plus l'ombre que de lui-même. Il se déplace en déambulateur, n'a plus d'érection, il est atteint d'un cancer du pénis. Ironie du sort pour ces textes symboles sexuels, finalement. Pour incarner cette figure mythique, il fallait trouver donc un comédien de choix, capable de ridiculiser le personnage tout en le rendant émouvant. Bruce Campbell incarne un Elvis vieillissant à la perfection. Désabusé, ridicule et touchant, il démystifie l'icône sans jamais verser dans la méchanceté ou la parodie facile. L'acteur culte d'Evil Dead rappelle d'ailleurs un autre comédien mésestimé par ce mélange un peu de virilité et de second degré pétillant, le génial Kurt Russell, qui sera à jamais pour plein de cinéphiles Snake Plissken de New York 97. Mais cette digression que je fais n'est pas anodine, car le comédien fétiche de Carpenter a interprété lui-même Elvis dans un téléfilm, le roman d'Elvis, signé par John Carpenter d'ailleurs. Et donc, d'ailleurs, j'imaginais un truc assez... Enfin, je fais une petite digression là, puisque j'imaginais si en France, on faisait en fait un film un peu similaire. Bon, on ne prendrait pas Johnny Hallyday parce qu'il n'est pas tout à fait mort. mais il y a Claude François qui s'associerait avec un maghrébin qui penserait être Georges Pompidou et qui combattrait, je ne sais pas moi, l'Ankou au fin fond de la Creuse. Ça pourrait donner un film français assez original.
Ouais.
Et voilà, je pensais à ça en voyant le
mais
film.
Mais on n'est pas capable de le faire en France. Hein.
Non.
Elle m'offrait un joli panorama sur sa culotte, mais c'était ni volontaire ni involontaire. Au fait, elle s'en fichait. Pour elle, j'étais physiquement et sexuellement inoffensif. Peut lui importer que j'ai une vue royale sur son petit nid d'amour. C'était comme si j'avais été un poisson rouge se rinçant l'œil dans son bocal. Ma bite se mit à palpiter mollement comme un pigeon faisant une crise cardiaque. Puis elle retomba entre mes cuisses, flasque et immobile. Mais ces temps-ci, même une demi-molle, c'était encourageant.
Eh ben...
Donc, outre l'interprétation de Bruce Campbell, qui est vraiment excellent dedans, et son pitch de départ imparable, Bouba Hotep doit sa réussite à ses dialogues crus et à souvent hilarants. La voix off est admirablement utilisée et donne un ton à la fois ironique et mélancolique à ce drôle de film qui se termine par un combat homérique assez étonnant. Nos deux petits vieux, l'un en déambulateur et l'autre en fauteuil roulant, vont affronter la momie lors de scènes d'action d'une paresse, d'une mollesse qui est volontaire, mais qui est vraiment très très drôle. Imaginez Elvis poursuivant une momie dans un fauteuil roulant. Et ça vaut vraiment le détour. Hein. Donc en dépit de ces de faiblesses qui sont évidentes, dont une dramaturgie un peu légère tout de même, et d'un manque de scènes aussi choc, amateur d'effets gore et sanglants, le film peut paraître décevant au premier abord. Mais Bouba a quand même acquis avec le temps un statut mérité de film culte et surtout remis en scène un réalisateur oublié, Don Coscarelli. C'était un des plus jeunes réalisateurs hollywoodiens. Il a commencé par deux longs métrages, il avait 20 ans, qui ne sont jamais sortis en France. Il est devenu connu avec un film qui est aujourd'hui culte, qui s'appelle Fantasme. À l'époque, on le comparait donc avec John Carpenter. Il a surtout inventé un croque-mitaine très très original, The Tall Man. Et Fantasme, c'est une sorte de film d'horreur un peu surréaliste qui est influencé par le cinéma de Buñuel. Et c'est un film étonnant qui a engendré trois suites réalisées par Coscarelli lui-même. Et après, il s'est un peu perdu. Je pense qu'il n'aurait pas dû accepter ou faire ce nombre de suites.
Il a dû faire les suites, mais sans avoir le budget forcément.
Avec les budgets de moins en moins importants à chaque fois, reprenant même des scènes du premier. Et ben, j'étais très content quand il a
arrêté,
surtout quand il est revenu avec Bouba Hotep. Et là, il revient avec un nouveau film qui a l'air d'avoir un budget quand même important, puisqu'il se permet d'avoir Paul Giamatti en acteur principal, qui est quand même un acteur plutôt connu aujourd'hui. Donc, j'espère que ce nouveau film qui s'appelle John Dies at the End, j'espère que ce nouveau film permettra de...
Et il sortira sur les écrans ou alors
Vient d'être réalisé et apparemment c'est possible.
D'accord.
Voilà. Mais bon.
Donc ça, c'était le film qui sera projeté demain pendant l'absurde séance. Alors il n'y aura pas que ça. Tu peux donner des petites indications sur Le programme.
Bon, on fera, il y aura un quiz hein, où on fera gagner quelques DVD. Bon, on pourra pas faire venir Elvis. Hein. je suis désolé. Même, je pense pas pouvoir me déguiser en Elvis. J'ai pas trouvé de costume, donc.
Il y aura peut-être des déguisements parce qu'on répète. Hein, alors, les
personnes qui nous écoutent peuvent venir déguiser en Elvis, Presley demain. Et puis, s'il y a un nombre assez conséquent de participants, on pourra faire gagner un DVD avec le meilleur déguisement d'Elvis.
Eh bien, c'est à 20. Alors, on savait pas si c'était 20h, 20h30, donc on va dire
20h15. Oui, mais je pense que c'est 20h30 comme la dernière fois.
Hein. Mais venez à 20h15, mais venez à 20h, vous êtes bien accueillis. ou à 20h, vous êtes bien accueillis au cinéma Utopia.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie.
Sur Divergence FM.
Alors que Star Wars, cette saga qu'on voudrait indémodable, va ressortir petit à petit en 3D, comme on donne un coup de polish sur sa voiture un dimanche ensoleillé, sort aujourd'hui sur les écrans, produit par les studios Disney, John Carter, un film de science-fiction qui annonce une éventuelle saga. Mais avant de tirer des plans sur la comète, voyons si le premier opus tient la route. Tout d'abord par long casting artistique. Aux commandes de ce John Carter, Andrew Stanton, repéré très vite par les studios Pixar, à qui l'on doit en co-réalisation Mille et une pattes, et Le monde de Nemo, et le seul film qu'il ait réalisé seul, c'était Wall-E, dont l'animation et le scénario étaient pour le moins une réussite. Alors inutile de se lancer dans un film de science-fiction genre peu représenté au cinéma, si le studio ne met pas les moyens d'accomplir l'aventure qui est autant visuelle que scénaristique. Le dernier film de science-fiction marquant fut Avatar, si l'animation était bluffante, le scénario l'était peut-être un peu moins, sans que ça gâche le plaisir, car ce qui prime, me semble-t-il, dans la science-fiction, c'est le monde qu'on propose. Alors Kubrick, avec son 2001 L'Odyssée de l'espace en 1969, tenait à représenter l'univers le plus fidèlement possible, compte tenu des connaissances scientifiques de l'époque, ça faisait son petit effet, on ne s'en plaindra pas. Mais si on compare Star Wars en 1977... Too many of them. Accelerate to attack speed. Draw their fire away from the cruisers. Copy, Gold Leader. Si on compare à 2001 l'Odyssée de l'espace. Eh bien, on sent bien le décalage. Hein. L'un tend vers la beauté et la métaphysique, quand l'autre tend vers le spectacle et la fantaisie. Alors d'après vous, quelle voie a choisi Disney ?
Mon cher Edgar, je me souviens du temps où je te prenais sur mes genoux pour te raconter des histoires extravagantes auxquelles tu avais la gentillesse d'ajouter foi. Aujourd'hui, tu es devenu un homme. Le temps et l'espace nous ont séparés. Mais malgré la distance, c'est à ce petit garçon aux yeux écarquillés que je demande une fois de plus de me croire. Cette fabuleuse histoire débute il y a 13 ans sur le territoire de l'Arizona, entre les monts Pinaleno et les portes de l'enfer.
C'est donc bien à une fabuleuse histoire que le studio de Mickey nous convie, et comme le dit John Carter dans une lettre qu'il remet à son neveu, son point de départ est sur la Terre, en pleine guerre de sécession, en Arizona. On y voit un John Carter, jeune, beau et rebelle, animé par une soif de l'or, mais surtout désireux de se mettre à l'écart de tout camp, sudiste, nordiste. Ça n'est plus son problème. La guerre ne lui a apporté que malheur. Ce qu'il veut, c'est être peinard et surtout ne pas être dépendant de quelqu'un. Et la première séquence où l'on nous dévoile John Carter est un mélange de prouesse au combat et de drôlerie, et du coup, lunettes 3D chaussées, le film devient tout de suite attachant. Mais comment réaliser un film de science-fiction en Arizona ? Va-t-on nous refaire le coup de cow-boy contre envahisseur ? Eh bien non. Après cet aimable prologue, la direction que l'on prend, c'est la planète Barsoom, avec son monde physique un peu particulier, genre gravité légèrement au-dessus de zéro, désert et créatures étranges, un monde dans lequel John Carter sera propulsé contre toute attente.
Tu l'as tué du premier coup. Quand je t'ai vu, j'ai compris que quelque chose de nouveau pouvait arriver dans ce monde.
Tu es John Carter le Terrien ?
Lui-même.
Une puissance nouvelle menace de détruire notre cité.
Le combat ne me semble pas équitable.
Tu es très laid, mais tu es magnifique! Il va combattre pour nous!
Allons-y.
Ce n'est pas nous qui avons commencé. Mais ce soir, nous allons en finir!
Une fois, je suis arrivé trop tard. Cette fois, je serai là.
Tiré du premier livre du cycle de Mars d'Edgar Rice Burroughs, qui a aussi écrit Tarzan, le monde qu'on nous propose est tout de même proche de la Terre, disons qu'on y retrouve les mêmes enjeux, lutte de pouvoir entre deux peuples, des méchants, des gentils, recherche de la paix, et surtout des individus qui ressemblent à s'y méprendre à des hommes. À ceci près qu'ils ont des peintures sur le visage et qu'ils aiment beaucoup les shorts, surtout l'héroïne, la princesse déjà Tauris, grande brune hyper athlétique, qui a suivi tous les conseils minceurs d'un magazine féminin martien. Alors ça aurait été beaucoup trop simple de nous proposer un monde avec seulement des hominidés et juste notre héros catapulté sur Mars. Et sur Barsoom, enfin Mars, il y a aussi le peuple des Tarks, géants verts à quatre bras qui sont les premiers habitants que John Carter rencontre. L'animation de ces grands hommes verts est réussie, et là c'est tout le talent de Pixar qui est à l'œuvre. Des hommes verts qui vivent dans les montagnes, deux peuples blancs qui luttent pour le pouvoir, on a sur Mars une image de ce que Carter a quitté sur Terre avec la guerre de sécession, et les Indiens au milieu ou pas loin. Alors lui qui ne voulait pas se mêler de la guerre sur Terre, quand on lui demande de prendre parti, préfère botter en touche et tenter de rejoindre cette fameuse Terre sans trop savoir comment y parvenir. Quel sera le rôle de John Carter dans cette bataille qui s'annonce entre deux peuples martiens? Vous le saurez en allant voir sa fabuleuse histoire qui se déroule en 2h20, un poil longuette avec ici et là des petites digressions. Pour les enfants c'est un régal, tant l'animation est réussie. Pour les adultes et les parents, il faut laisser de côté son sens critique, oublier ce qu'on sait de la planète Mars, tout ce qu'on sait de Babel et des langues, car oui, notre John Carter converse en anglais avec tout le monde. Visuellement, le parti pris a été de mêler du vieux avec du neuf, pas d'hyper sophistication, sauf pour l'un des personnages clés du film dont je cacherai l'identité, mais une technologie donc assez rudimentaire. On est très loin de Star Wars, le modèle du genre. De même, on ne découvre pas un bestiaire incroyable de créatures venues de tous les systèmes solaires buvant des vers dans un rat de glauque, mais quelques bestioles attachantes et d'autres plus féroces. John Carter est pour petits et grands, un cran en dessous Avatar pour le monde qu'il propose et l'animation qui s'ensuit, mais reste un très bon divertissement, sans réelle fausse note, une fois qu'on a admis que tout cela est de toute façon... rigoureusement invraisemblable. Voilà. Mais c'est entre le péplum, le western, enfin voilà, ça
il y aura plein de suites, on suppose.
Je pense qu'il y aura effectivement un 2, voire un 3. Je crois que le 2 est déjà en production et j'imagine de toute façon que ça va très bien marcher pour ce John Carter. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait, en consultant Libé très rapidement ce matin, il y avait une double page sur John Carter. Donc vous pouvez sans doute consulter ça. Et ça m'avait l'air très très bien fait. Alors oui, comparé même à Mad Max, effectivement, c'est vrai qu'on peut retrouver une espèce de tout ce qui est technologique ressemble un peu plus à Mad Max voilà, qu'à Star Wars. Il n'y a pas d'hyper technologie et c'est ce qui est finalement le rend attachant visuellement. C'est projeté toujours pareil au Gaumont, au Royal, au CGR et puis aussi à l'Athénée Lunel. Il faudra préférer les lunettes 3D, même si la 3D n'est pas tout à fait renversante, mais je crois que j'étais assez mal placé, étant arrivé en retard, voilà.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama,
je suis allergique,
sur Divergence FM.
Et bien maintenant, voici venu le temps d'écouter l'interview de Tony Gatliff, qui sort aujourd'hui son Indignados. Alors avec un titre pareil, le film fait forcément écho au best-seller de Stéphane Hessel et au mouvement des indignés qui ont émergé ici et là, mais plutôt ailleurs qu'en France, où le mouvement n'a pas pris. Alors en Grèce, forcément touché par la crise, et en Espagne. Indignados est un objet filmique un peu curieux. On ne peut pas oublier qu'il est réalisé par Tony Gatliff, qui a déjà fait de nombreux films, notamment sur la culture tzigane, gitane, manouche, sa musique, sur son oppression, par exemple sous l'occupation, et c'était le thème de Liberté, son dernier long métrage, que pour ma part j'ai trouvé fort dans sa simplicité et sa poésie. Alors on sait que Gatliff ne rentre pas dans le rang, que son cinéma est singulier, mais là on a plus à faire on n'a plus à faire une fiction, mais un documentaire bricolé qu'on pourrait appeler documentaire poétique. Alors, Gatliff suit une jeune sans-papiers de la Grèce où elle arrive sur une plage en Espagne où elle part en bateau, en passant par la France, dans tous ces pays, la misère, mais aussi des révoltes. Et notamment celle non-violente des indignés en Espagne que cette jeune femme va rencontrer. Ce seront ces moments de sourire. Alors, Gatliff n'a pas voulu expliquer quoi que ce soit sur la crise. On n'en voit que des conséquences, comme on peut en voir dans beaucoup de villes. On n'apprend rien, on est juste face à un réalisateur qui met en scène le malheur d'être né quelque part. Des images comparables à ce qu'on verrait dans un magazine info. Tape à l'œil, sauf qu'il y a un regard. Gatliff le dit lui-même, il appelle son film un ciné-poème engagé qui, selon lui, est propice à provoquer le débat. Malgré une beauté formelle indéniable, quelques belles métaphores, hein, comme cette scène où l'on voit des oranges qui dévalent une ruelle en hommage au Tunisien qui s'est immolé, une bande-son travaillée, malgré tous ces ingrédients, on peut penser qu'Indignados continuera de faire parler ceux qui parlaient déjà du monde qui va mal. Et c'était presque étrange que lors de cette conférence de presse à laquelle on a assisté, Marine et moi, eh bien le Gatliff passe son temps à dire « voilà, c'est un film qui va provoquer le débat, qui va provoquer le débat », comme s'il voulait se convaincre effectivement qu'il provoquerait le débat.
Alors que non, en fait, parce que ça s'appuie sur des choses qui sont déjà évidentes, qui sont déjà là, donc ça fait que constater en fait. Bon, je n'ai pas été trop convaincu, mais...
Non, mais moi non plus, effectivement. Donc, on va quand même écouter le réalisateur, Tony Gatliff. On en a pour une dizaine de minutes.
Tout cinéaste dans le monde a besoin d'un point de vue. S'il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de narration. Mon nom est Tony Gatliff, je suis un cinéaste militant. Et plus je vieillis, plus je deviens militant. Je pense que aucun film n'est utile. Tous mes films que j'ai fait avant, c'est pas utile. À part, ils ont été utiles à la jeunesse de voir qu'il y a une autre musique. Ils ont appris qu'il y avait la musique Zigane, ils ont appris qu'il y avait la musique Manouche après, plus tard. Et puis, c'est bien, on vit pas dans un monde sclérosé et on n'a pas que des problèmes, donc c'est bien aussi. Mais aucun film n'est utile, absolument aucun film. Celui-là est un film utile. C'est un film utile parce qu'il ne se revendique pas film. Il se revendique autre chose. C'est une façon de voir le film et de provoquer le débat. Et donc, ça n'existera pas à la télévision, ça. Ben, c'est un film, c'est un ciné-poème engagé qui permet à des gens de parler entre eux dans une salle de cinéma, ou de se lever et d'aller manifester. Dans le film, ce qui était le plus fort, c'est montrer les slogans. Et montrer les slogans, le pourquoi. Pourquoi les gens sont dans cet état. C'est ça qui est intéressant. Parce que moi, quand je suis arrivé en Grèce au mois de mai, il n'y avait rien. Je sortais, peut-être, il y a 3 mois avant, j'étais en vacances. Donc il n'y avait rien. Et personne ne se doutait une seconde que l'Espagne allait tomber comme ça. Et donc... ce qui était tout de suite dans le film, il fallait tout de suite le montrer, c'est le système des banques. Celui-là, il est nouveau, vraiment nouveau. Et c'est celui-là qu'il fallait montrer à tout le monde et à le montrer dans les cinémas, parce qu'évidemment, les discours, ils sont pas là. Il y a très, très peu de discours et de gens qui nous racontent ce qui se passe. C'est interdit ou alors ils disent pas vraiment les choses. Mais quand un film comme ça vous montre la réalité qu'elle a, elle triche pas, hein, ça triche pas. C'est pour ça que j'ai évité un maximum la narration. Le cinéma, c'est compliqué parce que le cinéma... C'est une chose qui, si j'avais scénarisé et le film comme le font tous les réalisateurs, j'aurais menti. Parce qu'on ne peut pas scénariser un film de document qui se passe dans le temps même où on tourne, dans l'instant où on tourne. Donc on ne peut pas le scénariser parce que toute combinaison pour le scénarier est fausse. Donc il fallait tout de suite, quand je suis arrivé, je suis parti le 5, hein, je suis parti à Madrid, chez les indignés, Indignados, avec mon équipe, j'en étais 5, avec le son, tout. Et tout de suite, je me suis posé la question en filmant, parce que je ne savais pas quoi filmer. Une fois que j'ai filmé les gens qui font comme ça, et les jeunes, parce que ce qui me frappait, c'est les jeunes, c'est beaucoup de jeunes. C'est tout de suite, je me suis posé la question de dire, Qui regarde le film? Qui raconte le film? Est-ce que c'est moi? Ou comment moi je peux raconter le film? Forcément que si c'est un cinéaste prend la caméra et montre le film, il le montre à sa manière. Donc c'est pas ça, c'est pas bon ça. Donc il fallait vite trouver un point de vue. Tout cinéma, tout cinéaste dans le monde a besoin d'un point de vue. S'il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de narration. Et donc le point de vue, c'est ce qui amène le regard de celui qui regarde le film, qui n'est pas lui, qui n'est pas moi, et qui est cette jeune fille qui est la plus pauvre du monde et qui vient du bout du monde pour aller chercher du secours ou de l'argent pour sa famille et qui tombe dans le même jour, elle tombe au moment où l'Europe se fissure. Ce regard-là, c'était important que ça soit fait par quelqu'un de diminu, quelqu'un qu'on appelle le tiers-monde, le quart-monde, et qui vient, qui assiste à une catastrophe ambulante de ce pays qu'on appelait avant l'Eldorado. Voilà, cette narration-là, ce point de vue-là, suffit pour la narration. Il ne faut pas plus. Il ne faut pas aller après les chaperonner. C'est ce que j'ai fait exactement partout, que ce soit dans tous les cinémas où je suis passé, c'est la discussion. C'est-à-dire une forme de forum qui n'existe pas sur la place publique, qui n'existe pas dans les rues, qui n'existe nulle part, ni dans les églises, mais qui peut exister dans le cinéma. C'est une forme de forum où tout le monde a la parole. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui parle seulement. On va le voir ce soir. Hier, je l'ai fait aussi à Pau. Et donc, c'est un forum où tout le monde peut s'expliquer. Tout le monde peut s'exprimer. Qu'est-ce que c'est que le problème actuel de l'Europe? C'est quoi la politique actuelle de l'Europe? Pourquoi la Grèce est dans cet état? Pourquoi on a enlevé le tout pouvoir à l'Espagne? Tout le monde a le droit de s'exprimer. Et pourquoi personne ne se lève? Tout le monde a le droit de s'exprimer. Aujourd'hui, pour changer cette mentalité du monde dans laquelle nous sommes en train de vivre, il faut que tout le monde se lève. Et il ne faut pas, c'est pour ça qu'il y a toujours ces slogans que j'ai filmés qui s'appellent « Lève-toi de ton canapé ». Et elle, je l'ai trouvée, c'est une véritable clandestine, une véritable, qui est arrivée à 4 ans et qui en bave autant. C'est-à-dire que dès qu'elle voit des choses qui peuvent lui rappeler ce qu'elle a vécu, elle a l'air mon Dieu. Donc, la différence entre, c'est-à-dire ce film, on l'a déjà vu, c'est qu'on ne l'a pas vu de moi et surtout qu'on l'a vu quand elle était sauvée. On l'a vu si pas quand elle est... Quand elle avait intégré les indignés, il y a la petite indignée Isabelle, à la fin, l'amène chez elle et elle dit « Mamie, je te présente une petite Africaine qui n'a pas d'argent. Est-ce qu'on ne peut pas lui trouver un lit? Mais bien sûr, ma petite fille, on va lui trouver le lit de ta grande sœur, il ne sert à rien. Et puis, tu n'as qu'à lui donner les chaussures que tu ne mets pas. Et elle a qu'à rester du temps là, on va l'aider pour trouver ses papiers. Ce film-là a été fait. Mais ce film, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Parce que ce n'est pas vrai. Personne n'est sauvé. Il n'y a aucun Africain, aucun Tzigane qui est sauvé. Il n'y a rien. C'est juste du cinéma et du bullshit, comme on dit les Américains. Et la compassion est une chose dangereuse, parce que laissons la compassion aux chrétiens et aux musulmans et à tous ceux qui prient Dieu. Mais nous, on ne peut pas avoir de la compassion. Nous, la seule chose qu'on peut ne pas avoir, c'est d'être blasé. On ne peut pas avoir d'être blasé. Mais par contre, on nique pas. Il ne faut pas niquer les humains. On nique pas les humains. C'est pas vrai qu'on va prendre une petite jeune fille assise noire, là, dans la rue, on va la voir en disant « Viens chez moi ». C'est pas vrai.
Et vous avez fait, j'imagine, beaucoup d'images. Ça a été compliqué de trouver la narration, d'enlever des images. Comment ça s'est passé, ça?
Non, ce qui a été compliqué, c'est de refuser la narration. Parce que, comme metteur en scène, je suis très créatif. Je suis vraiment très, 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 très trop. Et donc, c'était très dur de ne pas aller à la tentation de la narration. Et parce que garder juste ce que j'ai trouvé, c'est ce point de vue. Chaque film, s'il n'a pas de point de vue, n'est pas un film de fiction, n'est pas un film. C'est un documentaire, autre chose, ce qu'on veut. Hein. Mais à chaque fois qu'il y a un point de vue, c'est que c'est une narration. C'est comme Nanook l'Esquimau, je ne sais pas si vous connaissez. Nanook l'Esquimau, il y a une narration, mais il n'y a pas d'histoire, absolument rien, mais il y a une narration parce qu'il y a un point de vue. Lui, il était là, dans la neige, dans la glace, en même temps que les autres, dormait avec eux. Donc il y avait une narration, parce que c'est son point de vue d'Eskimo qui est devenu. Comme Gadjoudilo, Stéphane Gadjoudilo. Moi, j'ai filmé Gadjoudilo, Stéphane, dans, au milieu des Roms, qui n'avaient jamais vu un mec avec une caméra, hein, ni Stéphane. Personne ne rentrait là-dedans. Tout le monde avait peur de rentrer dans le village. Et donc, comme point de vue, ce que j'ai donné dans le film, c'est lui, c'est pas moi. Parce que moi, j'ai pas peur des Roms, parce que je rentre que où je veux. Mais par contre, lui, c'est très important de me mettre à sa place, à son point de vue, à lui. Et lui, il avait peur. Et c'est très intéressant de rentrer dans un village zigane en ayant cette peur pour le personnage. Hein.
Il y a aussi une certaine idée du hors-champ, enfin dans Indignados, notamment avec les SDF qui sont à Paris, qu'on ne voit pas, mais qu'on voit comme ça. On voit leur nom sur l'écran qui correspond soit à leur matelas, soit à leur tente. Donc ça fait référence aussi à des petites nouvelles idées qui arrivent au cinéma, où on voit les SMS maintenant sur certains films. Il y a quelques longs-métrages qui ont fait ça. On voit maintenant tout un tas d'inscriptions sur les écrans. Donc là, vous l'avez bien utilisé aussi. Donc pour un hors-champ. Et puis il y a aussi tout ce qui est administration. Alors on voit très peu de policiers. Et puis surtout, une des personnes qui sont... Alors police d'air et des frontières, je ne sais pas. Enfin, une des policières qu'on entend simplement et qu'on ne voit pas. Donc ça, choix délibéré aussi de ne pas montrer ce côté-là.
C'est le hors-champ, parce que le hors-champ est plus fort que le champ. Ce qui n'est pas montré est plus fort que ce qui est montré. Et surtout, ce qui est montré, par exemple, sans les lits, par exemple, là, sans les gens qui occupent les lits, c'est encore plus fort, parce que tout le monde connaît, tout le monde sait qui sont ces gens. On les voit tous les matins. Mais par contre, c'est bien de ne pas les voir, et c'est bien de les nommer, leur donner leur hache, et de dire qu'il y en a énormément dans tout Paris. Et ça, c'est uniquement pour dire, il y a quand même une petite misère en France, qui est quand même pas mal. Et donc, ça veut dire que c'est pas rien. Et la misère, eh ben, elle est là. Eh ben, elle est là. Donc, il ne faut pas qu'elle gonfle. Et donc, c'est uniquement pour ça, et on montre pas les gens qui dorment. Pour le cinéma.
Il y a quelque chose que vous avez réutilisé, que vous aviez utilisé dans Liberté, ce sont les images fixes, me semble-t-il, qu'on voit dans Liberté. Et là, quand vous êtes en Grèce, en revanche, on voit des visages de personnes qui sont exclues. Ouais. Donc d'un côté, vous avez quand même montré des visages, mais ce sont quasiment des images fixes. Et de l'autre, donc, quand vous êtes à Paris, vous ne montrez pas les visages. Donc c'est ça qui m'avait surpris. Donc pourquoi vous le faites dans un cas et pas dans l'autre?
Parce qu'ils me l'ont demandé, ceux-là. C'est eux qui m'ont demandé. Et ils sont venus en me disant « Monsieur, je veux dire quelque chose ». Et j'ai dit « Ah bon? Pourquoi? Je veux dire quoi ?» Et ils m'ont dit « Je veux dire des choses ». Et il y en a un qui est venu me dire aussi « Moi aussi ». Après, au dernier moment, il dit « Oh, j'ai de la famille ». Je lui ai dit « Non, alors ne dis pas, retourne-toi, puisque on te filme quand même et tourne-toi ». Et celui qui a dit, c'est sa volonté de dire, c'est vraiment sa volonté de parler. Et il a dit ce qu'il avait à dire, je l'ai filmé. Il a dit une phrase que je n'ai pas été d'accord avec lui. Et c'est, il dit, les policiers nous frappent, ce qui est la vérité, parce que d'autres nous l'ont dit avant, qu'ils les frappaient pour les dissuader de rester là. Et ils sont là depuis 3-4 ans, ils n'ont rien, absolument rien. Et il a dit, si je trouve quelqu'un qui, d'un pays pauvre qui vient ici dans ces pays, je lui dirai... Ne va pas dans ces pays, c'est pas bien. Ne va pas dans ces pays. Et ça, je l'ai enlevé parce que ça faisait trop plaisir à Le Pen.
Voilà, c'était Tony Gatliffe dans Cinérama Indignados et projeté au cinéma Diagonal.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sur Divergence FM.
Passons maintenant au pays du sang et du miel de Angelina Jolie. Alors si j'ai tenu à aller voir ce film, malgré les quelques critiques un peu mitigées, c'est parce que ce que je l'aime le plus chez Angelina Jolie, en dehors de son mec bien évidemment, c'est quand même sa faculté à être là où on ne l'attend pas. À ceux qui pensent que sa carrière se résume à Tomb Raider, il faudrait rappeler qu'Angelina Jolie a commencé au cinéma avec de nombreux rôles de jeune femme névrosée, dont celui qui lui a valu un Oscar dans Une vie volée. Abandonnant le célèbre patronyme de son père acteur, John Voight, et sa carrière de mannequin, elle a ensuite connu la gloire grâce à des rôles peu intéressants dans des films d'action à gros budget et à gros succès, notamment 60 secondes chrono avec Nicolas Cage, Wanted, Salt et bien sûr Mr. and Mrs. Smith, sans pour autant écopée de rôles de potiche de service, contrairement à d'autres actrices. Au contraire, en général, c'est plutôt elle qui finit par tuer tout le monde dans ses films. Mais ce serait oublier qu'elle a tout autant orienté sa carrière vers des rôles plus complexes et joué pour les plus grands réalisateurs. Elle a ainsi interprété la femme du journaliste Daniel Pearl dans Un cœur invaincu, était dirigée dans L'échange de Clint Eastwood et tournée sous la direction de Oliver Stone et Robert De Niro. Devenue ambassadrice des Nations Unies, elle décide de passer derrière la caméra, mais plutôt que de profiter de son statut de star et des financements confortables qui vont avec, elle se lance pour l'occasion, un défi et non des moindres, réaliser un film avec un budget de 10 millions de dollars, autrement dit une bagatelle, sur un sujet dont tout le monde se fout, surtout Hollywood, et tourner en Bosnie avec des acteurs totalement inconnus qui en sont originaires, le tout non pas en anglais, mais en serbo-croate.
Souviens-toi des bons moments qu'on a passés. Juste avant cette folie.
Ouvre la porte !
Non !
Je me souviens aussi d'avoir cherché partout. Oh, pourquoi tu n'es pas né serbe ?
Je suis ta prisonnière ou quoi ?
Tu n'es prisonnière que si tu n'as pas envie de rester.
Horrible que ça pour vouloir tous nous exterminer.
Sortez tous de cette baraque, les mains en l'air! Vous allez pas être responsables de leur mort!
C'est extrêmement compliqué. J'avais un de tes amis musulmans dans mon viseur aujourd'hui. Et ça m'a fait penser à toi. Et je me suis demandé si toi tu pourrais me tuer. Est-ce que tu me tuerais?
Oui, alors bon, là, évidemment, la bande-annonce est en français, mais il faut absolument aller le voir en version originale. Donc, Au pays du sang et du miel commence dans l'amour et la volupté. Un Serbe et une Bosniaque tombent amoureux l'un de l'autre, mais une explosion fait soudainement voler en éclats leur idylle naissante. C'est le début d'une guerre de 4 ans et d'un génocide qui les sépare brutalement pour mieux les réunir avec une ironie macabre. Lui est devenu l'un des principaux commanditaires de l'épuration ethnique et elle se retrouve prisonnière dans son camp. L'histoire d'amour devient alors un huis clos oppressant qui réunit la victime et son bourreau dans une relation de plus en plus malsaine et qui n'est pas sans rappeler le célèbre Portier de nuit avec Charlotte Rampling. La réalisation maladroite mais pleine de bonne volonté et de bonnes idées instaure un lent parallèle entre guerre et amour, deux luttes d'où personne ne sortira indemne. Malgré une utilisation un peu trop appuyée de la musique, les clichés hollywoodiens semblent bien loin, et c'est tant mieux. La mise en scène, très chargée en sens et en sang, joue surtout avec les magnifiques décors et une lumière bien utilisée. Difficile bien sûr de parler d'un conflit à la fois religieux, culturel et territorial sans prendre position, et on a beaucoup reproché à Angelina Jolie de diaboliser les Serbes, même si le film, un petit peu trop long d'ailleurs, semble rééquilibrer son point de vue dans une deuxième partie moins manichéenne. Alors pour une première tentative de réalisation et avec un sujet aussi casse-gueule, on peut dire qu'Angelina Jolie réussit un vrai film de cinéma qui a le mérite quand même de nous rappeler ou de nous apprendre ce qu'a été le pire conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, elle prépare déjà son prochain film qui traitera du conflit en Afghanistan. Donc je ne sais pas si elle compte faire un film par conflit international, mais à mon avis, elle a de quoi faire. Et d'ailleurs, dans Au pays du sang et du miel, apparemment Brad Pitt apparaît. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc à vous de voir. Il paraît qu'il apparaît dans une ou deux images. Voilà. Bon, oui, en tout cas, c'est un film très dur, très éprouvant, mais qui est quand même salutaire. Et ça passe encore au Diego.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
On va aller très vite pour l'agenda. Demain, le Ciné-Club, Jean Vigo propose la projection débat autour du film Le Procès, grand film d'Orson Welles. C'est au Centre Rabelais à 20h.
Et demain, le Cinéma Diagonal propose à 20h10 la projection du film Entre les bras, la cuisine en héritage de Paul Lacoste, suivi d'un débat en présence du réalisateur et de Michel et Sébastien Bras.
Et on aura une interview.
Vendredi, au Diagonal, à 20h30, la projection du film Astro Boy à Roboland de Marc Caro, qui sera suivi d'un débat en présence du réalisateur et avec des chercheurs dans le cadre du festival Science en Fiction.
À Alès, le cinéma Les Arcades propose avec Attaque et le festival cinéma d'Alès Itinérance la projection de Indignados de Tony Gatliff en présence du réalisateur. Au Diago le 12, le film Taxiphone de Mohamed Soudani. Et puis le 13, ce sera le Ciné Campus projection unique à 20h30 du film Vengo, décidément, de Tony Gatliff. Et rencontre avec Corinne Savy, ethnomusicienne et spécialiste du flamenco et de la musique gitane. Et c'est au cinéma Utopia. Sinon, à l'Utopia passe encore Detachment, El Chino et Si on vivait tous ensemble, J. Edgar, La désintégration, Les nouveaux chiens de garde, Millennium, The Artist, The Descendants, Une bouteille à la mer, Welcome in Vienna, Dieu ne croit plus en nous et Zarafa. Une partie de ces films ont déjà été chroniqués dans l'émission.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève Cinérama. La semaine prochaine, on parlera du festival Itinérance et du festival des ados. Nous aurons deux invités par téléphone, sans doute.
Et tout de suite après, vous avez rendez-vous avec 24 notes secondes consacrées cette semaine à Mastroianni.
Eh bien, merci Marine, merci Manu.
Merci.
Et à la semaine prochaine.
Merci à tous, à la semaine prochaine.
Oui, que je veux remercier.
Je voulais juste remercier.
Il n'y a que des combines.
Ah, non,
il n'y a pas de.
Si, vas-y, vas-y.
Il n'y a pas de gagneur.
Vas-y, tu peux remercier.
Je peux remercier. Non, oui, c'est juste pour dire que demain, c'est à 21h, en fait, la présentation de Bouba Hotep. Et je remercie donc la vie culturelle et le directeur d'Utopia, Arnaud Clapier.
Merci.